En ce moment, j'aimerais juste que nous puissions courber nos têtes et préparer nos cœurs à recevoir encore la parole de Dieu. Que chacun demande à Dieu, Seigneur, la part que tu as prévue pour moi, je n'aimerais pas sortir sans la voir. Si tu as permis que je sois là, c'est parce que tu as prévu vraiment quelque chose de particulier. Et ce moment est vraiment spécial. Nous commençons une nouvelle série. Et j'aimerais que le Seigneur puisse nous aider à tirer le maximum de ce qu'il a prévu pour nous pour cette nouvelle série. Le prédicateur sera en train de s'avancer et il va prier lui-même pour le message.
Seigneur, c'est ta parole qui nous a transformés tous comme nous sommes en ce lieu. Nous connaissons notre situation dans le péché. Et c'est ta parole qui en fait de mon frère et ma sœur ce qu'il peut être aujourd'hui. C'est celle que nous voulons écouter cet après-midi. Que tu la donnes à chacun de nous. Qu'elle perce nos cœurs. Qu'elle soit douce à nos palais. Et que nous puissions la vivre chaque jour. Amen. Frères et sœurs, bon après-midi. Aujourd'hui, nous commençons une série qui a été baptisée Good News. Good News. Je vais demander à chacun de nous de répéter ces mots, même si peut-être vous ne connaissez pas l'anglais, mais c'est ça. C'est ça ce que nous allons discuter pendant deux ou tous les mois. Good News. On y va? Good News. Good news signifie quoi? Bonne nouvelle. Et à Kiswahili? Habari njema. Aujourd'hui, nous avons les good news. Et le texte qui nous parle des good news se trouve à 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18 à 25. Je vais lentement lire ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 1er, 18 à 25. Voici ce qu'on appelle good news. En fait, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit: je ferai disparaître la sagesse des sages et j'en tirerai l'intelligence de l'intelligent. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'heure actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et le Grec cherche la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En fait, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Parole du Seigneur. Bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Alors, si Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, que faut-il faire encore? Quelqu'un a dit ça autrement. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et alors? Est-ce que l'histoire s'arrête là? Est-ce qu'on peut faire encore autre chose? Parce que le tombeau est vide. Est-ce que le message s'arrête là? Non. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et alors, nous avons un travail à faire. Devenir le messager de cette histoire. Le message de la croix. Mais, selon le texte que nous venons de lire, ce message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous qui sommes sauvés. En fait, quelqu'un peut se poser la question de savoir à quoi ce message est une folie? Pourquoi elle devient une folie? C'est-à-dire le même message a une branche folie et une branche puissance. Pour les uns, c'est une folie. Pour les autres, c'est une puissance. Nous qui confessons que Jésus-Christ est mort et ressuscité, c'est ça la bonne nouvelle, nous sommes le messager de ce message, le messager de cette folie. C'est nous. Il n'y a pas d'autre. Et donc, c'est nous qui sommes envoyés pour aller raconter cette folie. Aujourd'hui, on va parler d'une catégorie de ceux qui considèrent ce message comme une folie. Et dimanche prochain, on va parler de la deuxième catégorie. Voici la première catégorie. Ceux qui disent que le message de la croix est une folie, c'est généralement ceux qui entendent que ce message soit démontré scientifiquement. On vous posera la question, vous le messager de ce message, de démontrer scientifiquement si ce que vous dites est vrai. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la démonstration scientifique. Je vais vous faire deux exemples de démonstrations scientifiques. Et je vais vous faire aussi deux exemples des difficultés de démontrer le message de la folie. Alors, dimanche prochain, comme vous avez suivi le texte, nous allons parler de la deuxième catégorie de ceux qui considèrent ce message comme une folie. Ce sont les gens qui attendent le miracle pour croire. On a appelé dans ce texte les Juifs. Il y a donc deux catégories. Les Juifs attendent le miracle. Les Grecs attendent la démonstration scientifique. Alors, sans tarder, je veux vous inviter à suivre ce que vous avez suivi avec moi. La démonstration scientifique des mathématiques. Voilà. C'est familier pour vous, n'est-ce pas ça? Oui. A moins B au carré est égal à A carré moins 2AB plus B carré. J'ai dit que ça fait 30 ans que j'ai suivi ça. Et j'étais à mesure de réciter ça. Parce que A plus B au carré, c'est aussi A carré plus 2AB plus B carré. Mais ici, les enseignants voulaient souvent poser des questions sur le A moins B au carré. La réponse est là. Mais en mathématiques, on va vous poser la question de savoir comment vous avez eu la réponse. Si vous dites que A moins B au carré est égal à A carré moins 2AB plus B carré, l'enseignant va vous dire vous avez brûlé les étapes. Il faut montrer les étapes pour que vous puissiez arriver au niveau de la réponse. Si vous n'avez pas montré les étapes, vous n'avez pas la totalité des points. Mais si vous avez montré les étapes, on vous donne la totalité des points. Et alors, j'espère que vous avez fait ça. A moins B au carré est égal à A moins B multiplié par A moins B. Et alors, l'étape qui suit, c'est que ce que nous voulons chercher là-bas, c'est A multiplié par A moins B moins B multiplié par A moins B. Alors, A multiplié par A est égal à A carré, n'est-ce pas? A multiplié par moins B est égal à combien? Moins AB. S'il vous plaît, moins AB. Il ne faut pas oublier le moins. Je ne suis pas enseignant de mathématiques. Et alors, moins B multiplié par A est égal à combien? Moins BA. Ce n'est pas moins AB. Et moins B multiplié par moins B est égal à plus B. C'est pourquoi les enseignants voulaient faire cet exercice, parce que vous devez savoir que quand on multiplie moins avec moins, ça devient plus. C'est ça. Maintenant, vient l'étape 2. L'étape là. A moins B est égal à AB est égal à BA. Ou moins AB est égal à moins BA. Pourquoi? Parce que la multiplication est commutative. N'est-ce pas? Oui. 3 multiplié par 4 est égal à 4 multiplié par 3. La multiplication est commutative. Nous avons tous appris ça, à moins que Mika me dit qu'il n'a pas appris ça. Mais c'est commutative. B moins A multiplié par B est égal à B multiplié par A. C'est ce qui fait effectivement que là en pas, moins AB est égal à 2AB. Et si vous présentez cela, vous avez fait une démonstration scientifique. Alors attention. Quand vous annoncez le message de la croix, vous trouverez sur le terrain des gens qui vont vous demander une démonstration comme celle-ci. Et souvent, vous n'aurez pas de réponse. Je dis souvent, parce que ce que nous annonçons, c'est une folie pour ceux qui périssent. Ce n'est pas à démontrer. Ça, c'est le premier exemple que je vous fais. Démonstration mathématique, c'est la science. Alors les Grecs vont dire, ok, démontrer. Nous voulons voir. Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut nous dire que ce qui s'est passé, voici comment ça s'est passé. Nous voulons comprendre. Donc, pour enseigner le message aux Grecs, ce n'est pas facile, hein? Parce qu'ils cherchent les évidences, les résultats, les effets pour croire à ce que tu dis. Alors, ça, c'est le niveau du secondaire. Mais je viens maintenant au niveau universitaire. Vous avez suivi les cours d'initiation à la recherche scientifique, l'IRS. Et tout enseignant d'initiation à la recherche scientifique va vous parler de l'approche déductive et l'approche inductive. L'approche déductive utilise les organes de sens. Ce que vous avez vu, ce que vous avez écouté, vous pouvez goûter. Il y a des recherches qui exigent qu'on goûte pour savoir si c'est salé ou sucré ou si c'est comment. Et il y a une méthode déductive, hypothético-déductive, qui demande un raisonnement, une réflexion pour arriver à vérifier les hypothèses. Et un enseignant de recherche doit vous parler de Isaac Newton, du 17e siècle. Isaac Newton était assis dans son pommier. Le pommier, j'espère que c'est l'arbre d'une pomme, hein? Ah, il faut voir si c'est vrai. Il était assis sous son pommier. Et Isaac Newton a vu une pomme se détacher de la branche et tomber. Il a dit, ah, tiens, pourquoi la pomme n'est pas montée? Après s'être détaché de la branche. C'est pourquoi. Vous voyez la recherche déductive qui est lié aux organes de sens. Il a dit, ça signifie qu'il y a une force qui attire la pomme vers le bas et non pas vers le haut. Il a repris la pomme, il l'a jetée et la pomme est descendue.
Et il a réfléchi, il a fait une méthode déductive de la recherche, il est arrivé à découvrir ce qu'on appelle la force de l'apesanteur. Tout le monde est attiré vers le centre de la Terre. Et la vitesse pour aller là-bas dépend de votre poids. Parce que si vous jetez une pomme dans l'air, la pomme va vite descendre que papier, n'est-ce pas? Essayez, vous jetez une pierre dans l'air et vous jetez un papier. Le papier va papillonner parce qu'il n'a pas de poids. Et donc, l'attraction vers le centre de la Terre dépend du poids. Et ça nous a fait une grande théorie. Ceux qui ont fait les physiques doivent avoir appris ça. Il s'est posé la deuxième question. Ok, maintenant, pourquoi la pomme tombe, mais pas la lune et les étoiles? Parce qu'il a vu aussi les étoiles, mais c'est seulement la pomme qui est tombée. Mais les étoiles n'ont pas tombé. Et il a découvert une autre théorie sur la gravitation. Oui, vous savez que la Lune n'est pas à un seul endroit. La Terre tourne autour du Soleil et ainsi de suite. Ce que nous apprenons sur la rotation et la translation. Déjà comme ça, si vous voulez les enseigner l'Évangile, il faut vous demander de démontrer. D'ailleurs, aujourd'hui, on demande à Dieu aussi de démontrer. Bon, nous avons découvert la force, la puissance, la vitesse et tout ce que vous pouvez connaître. Qu'est-ce que Dieu a découvert? Il pose même cette question. Qu'est-ce que votre Dieu a découvert? Il défie Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils veulent que lorsque vous venez enseigner sur Dieu, que vous soyez à mesure d'apporter une démonstration mathématique, scientifique, déductive, inductive. Et parfois, et souvent d'ailleurs, vous n'aurez pas de mots. Parce que ce que nous enseignons, c'est une folie. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une force pour ceux qui croient. Donc, nous enseignons le message de la croix. Ceux qui ont participé à la veillée ici du mois passé ont entendu ce que signifie le message de la croix. Notre Père Sekera nous a enseigné ce que c'est le message de la croix. Il a dit ceci, je vous reprends. Quand vous enseignez sur le message de la croix n'est pas seulement à Golgotha. La croix de Jésus est plantée partout dans son ministère. Et le ministère de Jésus a commencé quand? À quoi? Depuis, même avant la naissance. Le premier exemple va nous montrer que c'est avant la naissance. C'est-à-dire, le message qu'on vous donne ne s'arrête pas à Golgotha. Si vous enseignez sur Golgotha, vous avez un message incomplet. Le Créateur des cieux et de la terre, et de toutes choses qui se trouvent là-dedans, s'est retrouvé dans un utérus, n'est-ce pas? 9 mois, pour prendre la chair, c'est une croix. Il est allé naître où? Étable, au milieu de la bouse, et de toutes ses odeurs. Ce qu'elle a dit, c'est une croix. Avant même d'arriver à Gethsemane, Jésus-Christ a porté sa croix. Et donc, quand il vous envoie pour parler de la croix, ne vous concentrez pas à Gethsemane et chez Pilate et de Golgotha. Non, la croix de Jésus est plantée partout. Et alors, je parle de ces deux exemples. D'abord, pour vous montrer que la croix est plantée là-bas, mais aussi pour vous montrer qu'il est difficile de démontrer lorsque vous annoncez le message de la croix. Premier message aujourd'hui. Ce message est adressé à la petite fille qui s'appelle Marie. Elle était petite, vierge, mais fiancée. Écoutez le message que lui adresse. C'est un message que vous connaissez très bien. Luc, chapitre 1er, je vais lire de 26 à 36. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle situation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Mais Marie n'a pas compris. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il? Parce que moi, je ne connais point d'homme. » Il cherche quoi? Il cherche la démonstration. Écoutez la réponse de l'ange. Vous allez voir si l'ange a démontré. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie a compris? Et Marie, j'ai doute qu'il a compris. Mais il a dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange lui quitta. C'est ça la tendance, hein, que vous allez trouver sur terre. On va toujours vous poser la question, comment cela se fera-t-il? Même si Marie est une petite fille, elle sait comment on devient enceinte quand même. Tout le monde ici sait comment on devient enceinte. Oui, mais Marie s'est dit, bon, moi je suis fiancée, je ne connais pas d'homme. Comment je serai enceinte? Il veut que Dieu démontre, peut-être revenir à ce qu'il sait, que voici comme tu le sais, Marie, comment on devient enceinte. Mais il évoque le Saint-Esprit. Je voudrais que vous puissiez souligner ça dans votre vie du ministère, quand vous allez annoncer le message de la croix. Le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit fera, vous ne savez pas. Vous vous rappelez de lorsque les disciples voulaient commencer le ministère. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit non, attendez. Attendez le Saint-Esprit. C'est ça notre message. Pas de ministère sans Saint-Esprit. Et c'est difficile à expliquer parce que c'est le Saint-Esprit. Parce que ce gars ici, quand il annonce le message pour la première fois, il parle en langue. Il parle en français comme je parle en français. Mais celui qui écoute, écoute dans sa langue maternelle. Comment vous pouvez démontrer ça? Comment vous pouvez démontrer que quand moi je parle en français, toi tu écoutes à Tchilouba? Le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que si quelqu'un s'hasarde d'aller annoncer le message de la croix sans Saint-Esprit, il ne saura pas. Donc, déjà au début ici, l'ange évoque le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est déjà évoqué déjà au deuxième verset de la Bible. Lorsque tout était noir, sa forme, le Saint-Esprit a plané sur tout pour donner la forme. Donc, frères et sœurs, le Saint-Esprit. C'est lui qui peut démontrer ce qu'il a fait. Lorsque Pierre Et Jean entre dans le temple et qu'il trouve une personne vivant avec handicap depuis sa naissance. Il lui demande, par le pouvoir du nom de Jésus, de s'élever. Le Saint-Esprit. Si on leur demande là, expliquez ce que vous avez fait. Ils ne le savent pas. Ils ne peuvent pas démontrer. Dans toutes les choses que nous ferons, lorsque nous savons que le Saint-Esprit est là-dedans, personne ne pourra démontrer. Le Saint-Esprit fait des choses qu'on ne peut pas démontrer. Et alors à Marie qui veut qu'on lui dise comment elle sera enceinte, on lui répond, le Saint-Esprit descendra sur toi. Comme quoi? Comme l'ombre. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce que le Saint-Esprit a fait? Pour que Marie devienne enceinte. Moi, je ne peux pas imaginer. Est-ce que Marie a même vu cette ombre-là? Bon, ce n'est pas écrit. Mais le message que l'ange donne à Marie, c'est que le Saint-Esprit viendra sur elle. Et le Saint-Esprit va le couvrir de l'ombre. Et Marie sera enceinte. Bon, pour être mère de Jésus, on n'a pas besoin d'une démonstration. On n'a pas besoin de comprendre les détails de ce qui va se faire. C'est ça le piège. Pour être un messager de la croix, il ne faut pas chercher à comprendre tous les détails de ce que Jésus ou Dieu va faire sur le terrain comme messager. Mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait. À la fin, l'ange a donné à Marie le principe qu'il ne faut pas oublier. Le principe, c'est celui-ci. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ça le principe. Avec le Saint-Esprit, rien n'est impossible à Dieu. J'avais une longue série de versets que je vais vous citer tout simplement pour comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Quand nous lisons Ésaïe, chapitre 1, le verset 18, on nous dit que même si vos péchés sont rouges ou sont comment, ses péchés seront blancs comme la neige. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a aucun péché que vous allez trouver sur terre quand vous allez annoncer le message de la croix qui ne sera pas pardonné. Vous serez parfois étonné de voir que quelqu'un a déjà fait ça comme péché. Mais rien n'est impossible à Dieu. Nous lisons aussi que Dieu nous change le cœur. Même lorsque nous avons des cœurs durs comme une pierre, Dieu les transforme comme une chair. Nous lisons ça en Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Nous lisons qu'il n'y a aucun travail difficile que nous ne pouvons pas faire. Parce que Philippiens nous dit que je puis tout par celui qui me fortifie, le Saint-Esprit. Nous lisons que nous n'allons pas rencontrer des tentations qui sont difficiles. En 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Parce que dans toute forme de tentation, le Seigneur donnera toujours une porte. Le Saint-Esprit. Nous lisons qu'il n'y a aucune difficulté, blocage que chrétien peut trouver. Parce que lorsque nous lisons Romains chapitre 8, verset 31, nous lisons que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Saint-Esprit. Et nous lisons qu'il n'y a aucune promesse que le Seigneur vous donnera et qu'il ne va pas réaliser. Parce que nous lisons en Matthieu chapitre 24, le verset 34, que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Toute parole que vous avez déjà entendue, Dieu voulait dire, ça ne passera pas. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Lorsque vous marchez avec lui, il faut tout simplement, sans rien comprendre, il faut tout simplement prendre l'attitude de Marie et dire, il me soit fait selon ce que tu as dit. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alors, vous le savez bien que lorsque vous marchez comme ça, vous êtes fou ou folle. Et donc, vous apportez un message de la folie. Parce que vous-même, à un certain niveau, vous ne savez pas expliquer ce qui s'est passé. Cela veut dire aussi que quand vous annoncez un tel message, vous êtes en risque. Parce que vous savez les risques que Marie a encouru parce qu'elle a accepté une folie. Oui, elle n'était pas à mesure. Si Dieu lui-même ne voulait pas sauver Marie, en envoyant l'ange chez Joseph, Marie n'avait pas une démonstration mathématique ou scientifique à présenter à Joseph, à sa famille, à la société. Il n'en avait pas. Mais le Seigneur a utilisé l'ange pour venir expliquer que ce que vous allez voir là et que vous ne savez pas expliquer, c'est vrai que ça vient de Dieu. Et donc, messager du message de la croix, vous apportez une folie. Ne cherchez pas à démontrer. Parce que vous ne savez pas démontrer l'incarnation. Comment la parole a pris la chair? Comment la grossesse a commencé dans l'utérus de Marie? Et même celle qui a porté ça ne sait pas expliquer. Ça, c'est le premier élément et le temps se termine. Je vais traverser vite le deuxième élément. Vous ne pouvez pas être messager de la croix sans parler de la nouvelle naissance. Parce que nous tous ici, si nous avons réellement cru, c'est que nous sommes passés par la nouvelle naissance. Mais est-ce que nous savons expliquer la nouvelle naissance? Non. Et nous ne saurons pas l'expliquer. Nous lisons ce texte qui est familier à vous en Jean chapitre 3. Et c'est l'histoire de Nicodème qui est venu à Jésus la nuit. Il voulait vraiment le remercier. Il a commencé par des compliments parce que tout le monde connaît que tu viens de Dieu. Mais vite, Jésus a changé le message et a dit, « Nicodème, en vérité et en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Est-ce que Nicodème a compris? Nicodème savait que pour être membre du peuple de Dieu, il faut être de la lignée d'Abraham. Il faut au moins te reconnaître que je suis de la tribu de Juda, de Benjamin, de Joseph, de Ruben, de ceci. Là, tu appartiens au peuple de Dieu. Et puis, il faut être circoncis. Il connaissait cela. Mais naître de nouveau, ça a été un nouveau message pour Nicodème. Et c'est pourquoi il a posé une question folle. Il a dit, « Bon, mais Seigneur, bon, tu dis que je dois naître de nouveau. C'est-à-dire, tu veux dire qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère et que je puisse naître. » Parce que lui ne connaissait que la naissance biologique pour appartenir à la famille de Dieu. Mais est-ce que nous savons comment naître de nouveau? Naître, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas l'affaire de l'homme. Même naître pour la chair, c'est l'affaire de Dieu. Peut-être il n'y a pas de femmes qui ont porté la grossesse, mais je vois ma femme là-bas qui a porté 4 grossesses. Mais si vous lui posez la question, si elle sait quand la vie avait commencé dans son utérus, elle ne sait pas. Elle peut raconter qu'après un mois, je n'avais plus de règles. Mais la vie avait déjà commencé, n'est-ce pas? Oui. Quand Dieu commence la vie, personne ne sait. C'est un secret de Dieu. De la même manière, quand Dieu commence la vie éternelle à toi, c'est un secret. Bon, j'ai entendu les gens dire, bon, moi j'ai reçu le Seigneur le 14 avril 1900, telle chose. C'est vrai, bon. Pourquoi? Parce que Jésus répond à Nicodème qu'il faut naître de l'eau et de l'esprit. Naître de l'eau, c'est-à-dire vous écoutez la parole. Vous devez être conscient que vous avez quand même écouté la parole. C'est ça, et que la parole vous a convaincu, et c'est pour cette raison-là que vous avez décidé de dire, je vais croire au Seigneur. Mais naître de l'esprit, personne ne sait. Personne ne peut dire, c'était à 0 heure, j'ai attendu Jésus, m'a touché, et je suis né. C'est faux. peut lui dire c'est faux ce que tu dis là. Mais quelqu'un peut vous dire oui, oui, c'était à Gomaville, il y avait ceci et tel pasteur avait enseigné, j'ai écouté la parole. Là, il naît de l'eau, de la parole de Dieu. Mais commencer une vie par l'esprit à lui. Beaucoup déjà sont des menteurs dans cette matière. Parce que naître n'est pas notre responsabilité. Il n'y a personne qui sait quand sa vie a commencé. À moins que Dieu vous révèle un miracle ici pour que vous puissiez dire alléluia. Moi, je sais que j'ai commencé dans l'utérus de ma mère. Surtout vraiment, les spermatozoïdes ont rencontré l'ovule. C'était à 19h-20. Bon, les gens vont rire comme vous riez là-bas et dire ça doit être une folie. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas y croire. Naître, même naître, personne ne raconte, parce qu'on nous raconte. Mon père me raconte que je suis né au mois de mars et on devrait m'appeler Pascal. Mais mon grand-père a refusé, il a dit non, non, le nom Pascal, c'est un nom un peu catholique, appelez-le Isaac. On me raconte, mais je ne sais pas comment je suis né. Je ne vais pas dire, bon, moi je sentais comment j'ai quitté l'utérus de ma mère et voilà, je suis sorti. Et il y avait des infirmières. Les gens vont dire, toi vraiment, tu as vu comment tu nais. C'est ça, effectivement, naître de nouveau. Et Jésus, pour expliquer à Nicodème, il dit que ce qui naît de la chair, c'est la chair. Mais ce qui naît de l'esprit, c'est l'esprit. Il dit, tu ne vas pas comprendre, Nicodème. Ce que tu peux comprendre, c'est que c'est comme du vent. Vous allez lire ce chapitre, c'est comme du vent. En fait, lorsque le vent passe, qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que nous voyons le vent? Mais nous ne pouvons pas discuter qu'il n'y a pas de vent. Mais nous voyons les effets du vent. C'est-à-dire, lorsque nous naissons de nouveau, on peut voir les effets de votre naissance. On peut dire, ah, Oumoutoualicha a changé. Ah, il était ceci. Il y a une transformation, il y a une attitude. Les paroles ont changé. Il y a une transformation pratique. C'est comme du vent. Donc, on peut certifier, et le vent dans la Bible donne le symbole du Saint-Esprit. Donc, les gens voient, les gens peuvent voir une cyclone ou un cyclone. Les amis de Madagascar connaissent les cyclones qui peuvent soulever toute une maison et même les humains, ça soulève. Mais personne ne peut voir le vent. On peut voir les effets du vent. Ça signifie que si vous dites que vous êtes né de nouveau et il n'y a pas d'effet, c'est faux. Parce que le vent, on voit les effets. On voit quand même si c'est vraiment minime, mais on peut voir les branches, les feuilles bouger. Et on dit, il y a du vent qui passe. Frères et sœurs, voilà ce que le message d'aujourd'hui nous demande de faire. Nous sommes messagers de la folie. La croix. La croix n'est pas seulement plantée à Golgotha. La croix vous exige de parler de tout le ministère de Jésus. Et tout ce que Jésus a fait par la puissance du Saint-Esprit, vous ne saurez pas le démontrer. Mais l'Esprit. L'Esprit descendra sur vous. Et vous n'êtes pas obligé d'apporter une démonstration mathématique de A moins B au carré. Mais il faut vous fier à l'Esprit. Et l'Esprit va vous faire des bons messagers de la folie. Et vous-même, parfois, vous vous étonnerez de voir ce qui s'est passé, mais à travers vos mains, à travers votre bouche. Que le Seigneur vous garde pour le deuxième message de dimanche prochain, où nous allons parler de ceux qui ne veulent pas croire parce qu'ils attendent les miracles. Amen.
Alléluia.